habitués, mais de faire un PowerPoint alors que je voulais essentiellement faire un discours et éviter ce qui est ma technique personnelle, c'est-à-dire éviter de raisonner directement sur des équations. C'est-à-dire sur un langage bien particulier, lequel n'exige pas nécessairement de PowerPoint ou quoi que ce soit, mais pour se faire selon une des vieilles habitudes mathématiciennes, c'est-à-dire au tableau. Je me suis imposé pour m'adapter à une certaine technique et de ne pas faire le PowerPoint, vous allez voir, de ne pas faire le PowerPoint comme nous avons un peu trop souvent l'habitude de les entendre, c'est-à-dire le PowerPoint communication représentant de commerce assez fatigant qui dit point 1 c'est le premier point, point 2 c'est le deuxième point, etc. Enfin, vous avez tous entendu des PowerPoint un peu difficiles, d'autant que le sujet que je veux prendre est, il faut que je m'adapte au but de cette journée et de ne pas faire quelque chose qui ne vous sert à rien, qui me sert à moi, qui m'intéresse, mais qui ne sert à rien, c'est-à-dire je n'ai pas l'intention de faire de l'histoire des sciences ou de faire de l'épistémologie d'une certaine façon, mais de réfléchir à cette question, et c'est celle que je prends, c'est en quoi une écriture à un moment donné dans l'histoire, certes, je me prends à un moment donné dans l'histoire, mais en quoi une écriture a permis de penser l'idée d'itération. Alors, je le prends en mathématiques parce que c'est là que ça a commencé, on pourrait assez facilement aller un petit peu des endroits différents, mais comment l'écriture, l'utilisation de moyens techniques, l'imprimerie, mais l'imprimerie organisée d'une certaine façon a permis de faire. Alors c'est Lyon, celui qui est en PDF, c'est Lyon janvier 2. Alors ou alors je me trompe peut-être. Bien, qu'il ne soit pas simplement. Excusez-moi, j'ai. D'accord. Alors, l'affaire a une situation bien précise pour cette affaire d'itération et cette affaire de la venue de ce qu'on peut appeler le champ numérique. Alors, ça, c'est très simple, c'est au début du XVIIe siècle et je prends. Elle a vite, c'est ça le système de la technique, c'est les tables numériques comme étant des choses qui sont mondialement utilisées dès 1630. Les tables de logarithme se trouvent en Chine, il ne faut pas oublier ce, et bien entendu établies par des Chinois avec l'aide de mathématiciens génétiques peut-être, mais établies suivant des légers principes différents de ce qu'est la table numérique établie par Briggs et Napier. Alors, technique d'écriture, c'est-à-dire tables à entrées multiples, à entrées vraiment multiples. C'est-à-dire vous avez sur une colonne le sinus et vous lisez en sens inverse le cosinus. C'est l'angle qui change, c'est l'entrée qui change. D'autre part, vous avez la tangente, mais vous avez, et c'est ça qui est une énorme différence, vous avez les erreurs, c'est-à-dire les différences entre les chiffres successifs, qui sont une indication, une double indication. D'abord, qui vérifie que les chiffres qui sont écrits, il n'y a pas d'erreur dedans. Ça a l'air de rien, mais c'est un moyen de vérification visuel, certes, mais important. Et deuxièmement, qui ont une portée théorique. Car à partir du moment où Napier et les autres, à partir de 1614, vérifient que les différences sont inversement proportionnelles aux quantités qui sont en jeu. Et ils ont ce que nous pouvons dire, c'est pas exactement ça, mais ils ont que d de logarithme népérien de x sur dx égale 1 sur x. Ils l'ont. Ils le voient. Alors quand on pose la question de le calcul différentiel, bien sûr qu'il n'est pas là le calcul différentiel. Mais enfin quand même, c'est une sacrée force que de visualiser un phénomène qui est de l'ordre de l'analytique d'abord, du calcul numérique. Bon, c'est une chose. Deuxièmement, une technique de calcul. C'est-à-dire que la technique qui utilise le logarithme et les tables trigonométriques, c'est une chose qui remplace dans la pratique du mathématicien, et je refuse d'employer le mot mathématicien appliqué là, c'est dans la pratique numérique de ce qu'on peut appeler le mathématicien, le scientifique si ça fait plaisir, je ne vois pas de blocage là-dessus, qui remplace les équations algébriques par des problèmes d'angle, c'est-à-dire à ce qui est une abstraction de type analytique. Trouver les racines de x5 moins 5x2 plus égal, je le remplace par un problème géométrique dont on me fait croire que c'est un problème ancien qui est important, c'est-à-dire diviser en 5 parties un angle donné. C'est vrai que c'est un problème ancien et c'est vrai que c'était un problème reconnu comme non traitable par la règle et le compas, un petit peu plus délicat à rédiger, mais il y a là, et sur le problème de, qui est mon problème d'inspiration, quand je remplace de l'analytique par quelque chose qui se voit, l'analytique se voit, mais par quelque chose qui se voit plutôt, qui est lié à une intuition ou à une habitude de la géométrie. Remplacer X, si je vais parler vite, par l'angle. Alors, vous pouvez vous poser la question, mais alors qu'est-ce qui crée le numérique ? Est-ce que, puisque c'est un passage qui va vers l'abstrait, vers le concret, l'angle, passage du polynôme à l'angle, et la plupart des épistémologues disent c'est la géométrie, le sens de la géométrie qui, simplement, il vient après. Et ça ne veut pas dire que peut-être dans l'inspiration et dans l'imagination il ne soit pas venu avant. Mais historiquement parlant, c'est ça mon point, c'est une technique de calcul qui s'illustre, figure, voilà. Il n'y a pas 36 problèmes, sauf, historiquement, c'est un problème purement abstrait, d'aucun intérêt, c'est le problème posé à Viète par Adrien Romain, résoudre un polynôme du 45 degrés. Qui a jamais eu l'idée de poser un problème du 45e degré ? Et alors, ce que les historiens oublient de s'interroger, mais que diable que Viète le résolve magnifiquement, est une chose. Mais qui a suggéré à Adrien Romain un tel problème ? Alors, le côté génial de la technique géniale de Viète, c'est de dire que 45, alors c'est tout bête, c'est 3 multiplié par 3 multiplié par 5. C'est-à-dire de comprendre qu'un polynôme du 45e degré, non pas n'était pas divisible par les polynômes de Grégoire, mais par combinaison successive, pouvait se ramener à résoudre un problème de degré 3, résoudre un problème de degré 3, résoudre un problème de degré 5. D'un seul coup, tout algébriste comprend qu'il y a quelque chose d'autre que de l'algèbre qui est en cours. Alors, je ne sais pas le nommer. C'est autre chose. J'aurais envie de dire c'est de l'analyse. Mais c'est pas bon de le nommer comme ça. C'est-à-dire, c'est une notion de fonction. À partir du moment où je considère un polynôme comme une fonction, alors du coup, je peux changer de variable. Du coup, mon polynôme de degré 45, je prends une première variable qui sera de degré 3, et je rentre ma variable dans un nouveau polynôme de degré 3, puis un polynôme de degré 5. La notion de fonction, cette notion qui, pour nous, devient toute bête à cause des définitions de Cantor et de quelques autres, qui est, c'est une correspondance. Ah non, c'est pas une correspondance, c'est une structure. Mon point est, sur cette affaire, la notion de fonction, elle est née avec une pratique numérique, quand je mets pratique, il y a de la théorie dedans, c'est pas mon point, mais avec un champ numérique qui a fait qu'on a reconnu, et on le voulait, que le logarithme, pour le dire vite, transformait. Et ça, c'est une structure. Un produit en une addition. Et là, vous ne pouvez pas dire... je ne fais pas du bourbaki en disant cela. Je dis ce que je vois, mais que je dois reconnaître que la plupart des épistémologues ou des historiens oublient de dire, en disant Napier, c'est un noble d'Écosse qui a du temps à perdre, qui fait des calculs, et puis il y a un universitaire, il n'y a que les universitaires qui sont intelligents, prétend-on, et qui arrive à comprendre. Non, quand on regarde les textes de Napier, son point structurel et fondamental. Il est ce qui le fait vivre et le fait marcher. Et puis, donc c'était mon dernier point, une appréciation. Bon, alors, historiquement aussi, quand même, des affaires matérielles. Hein. Il faut voir ce que coûte la publication de tables trigonométriques. S'il n'y avait pas eu un mécénat, alors je rajoute protestant. Pourquoi il est protestant, etc. Je ne veux pas en parler, c'est une autre affaire. Mais c'est un mécénat protestant. Les tables trigonométriques de Pitiscus, c'est 25 années. Hein, 25 années de travail avec une équipe, nous ne savons pas bien, payée par Frédéric IV du Palatinat, l'électeur, à temps complet. Napier a essayé de faire la même chose, hein, et il n'aura la subvention que par un autre moyen. C'est-à-dire quand son affaire va passer, et c'est pas le Briggs, c'est pas l'universitaire qui a fait la chose, c'est un imprimeur, c'est à Gouda, donc aux Pays-Bas, et l'imprimeur va joliment transformer le nom, puisqu'il est à Gouda, aux Pays-Bas, et bien il va appeler ça Trigonometria Britannica, ce qui est un faux sens, hein, je répète, c'est aux Pays-Bas, hein, mais il faut que ça se vende. Les Britanniques sont déjà assez nationalistes. Et ils mettent de l'argent. C'est un succès. Un succès de vente, je répète, ça va en Chine. Transformer, etc. Mais il y a cela. Et d'autre part, il ne faut jamais oublier, et je n'en fais pas une question de pratique, parce que c'est de la théorie. Mais de la théorie directement hantée sur des problèmes, c'est les tables nautiques des loxodromies, qui sont alors une petite merveille de découverte, en ce sens que c'est avec la projection stéréographique, c'est une petite merveille à un moment donné où quand ça sort en 1700, les logarithmes ne sont pas là. Or, ils établissent des choses qui à la fois donnent la croissance, pardon, des longueurs de degrés de latitude quand on va vers le nord, Mercator, hein, mais à la fois leur table, leur donne à l'avance le logarithme, une tangente, enfin, peu importe le détail fonctionnel, mais un logarithme de quelque chose. Et ils sont conscients qu'il y a une affaire, c'est aussitôt lié à la question en projection stéréographique, c'est la spirale, sur le plan, c'est la spirale logarithmique. Bon, voilà pour les affaires. Un peu de point de méthode que je dois faire. Je n'ai pas du tout l'intention, parce que ce n'est pas votre intérêt, tout simplement, de faire une histoire de tout le numérique, prenant en compte notamment la tâche de répartition du travail à faire. Hein. Qui doit prendre en charge, finalement, ce travail numérique ? Je laisse de côté, mais je crois quand même mentionner qu'il n'y a jamais eu d'école de mathématiques avant 1600. Il y a des écoles de mathématiques à partir de 1600, Simon Stevin est le premier, en 1600 exactement, à Ulm avec Faulhaber. En France, elles sont moins connues, mais Henrion et quelques autres en créent juste au tout début, juste après la mort de Henri IV et au tout début du règne de la Régence, puis du règne Médicis, c'est-à-dire des lieux où on ne fait que des mathématiques. C'est ça que je veux dire, et on ne fait pas de latin. Ça a l'air de rien, mais c'est un changement. Et on ne fait pas non plus d'humanité. C'est un lieu, et c'est un lieu réservé à la noblesse. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que c'est un lieu de marchands. Bien. Je crois que c'est important aussi. Non plus, je ne veux pas, j'ai parlé de l'affaire des différences, je ne veux pas sur l'aspect purement épistémologique, l'invention, etc. Mais j'essaie que mon interrogation porte sur le numérique en lui-même. Dans son émergence comme science au début du XVIIe siècle, et je n'essaie pas de dire que c'est vers l'analyse mathématique telle que nous la connaissons. Il y a quelque chose qui se crée. Ce quelque chose ne s'est peut-être pas développé en champ à cette époque-là en un champ fermé et a donné plusieurs possibilités. Très bien. Alors, c'est juste pour vous montrer, reconnaître que c'est absolument pas lisible, mais vous voyez bien que ces choses comme cette table, alors sur la gauche, la table de Ricitus Locus Palatinus, et sur la droite, c'est un texte issu de Pitiscus dont j'ai parlé. Peu importe, mais vous voyez le type d'écriture. Hein, vous voyez qu'il n'y a pas qu'une seule entrée, vous avez des explications, il y a des chiffres qui interviennent à un certain endroit, des explications de différence, etc. C'est vraiment là, il s'est mis au point quelque chose sur lequel nous ne savons rien sur la discussion ou l'élaboration qui a été faite entre imprimeur et acteur de la table, ceux qui ont fait la table. Nous ne savons malheureusement rien, ça commence à prendre du temps. Hein, et ça devient standardisé. Vous voyez aussi, ça a l'air de rien, mais vous voyez le nombre de chiffres. Hein. Les grandes tables, c'est 15 chiffres significatifs. Je crois que c'est utile d'avoir au moins, il se passe quelque chose sur le plan de l'affaire. La suivante, parce que j'aime bien montrer ça. La première traduction en français, c'est l'arithmétique logarithmique hein, de Napier. D'ailleurs, il le dit, par le moyen desquels on résout très facilement tous les problèmes arithmétiques et géométriques, c'est rien. Mais regardez, je parlais de cette affaire du monde protestant. Vous entendez Calvin, hein ? Dieu nous a donné l'usage, c'est dans le titre. Dieu nous a donné l'usage de la vie et d'entendement plus qu'il n'a fait par le temps passé. Si ça, ce n'est pas une déclaration du modernisme, ou alors et il y a Dieu, et vous avez. Il n'a pas fait plus que ça. Hein, je trouve que c'est intéressant de voir. Alors je vous ai pris la logarithmorum canonique des scriptures, la grande, pour montrer tous les tampons. Là, cette fois-ci, on a une. Un mot que je prends dans l'ensemble. Bien sûr, l'auteur est là, toujours, hein, Napier. Napier n'est pas exclu, alors que c'est intentionnel. La reconnaissance qu'il y a là, et on doit à son auteur du respect. Hein. Mais le titre Logistica Mathematica, il s'insère dans une vieille tradition de logistique mathématique dont je crois que la seule traduction possible aujourd'hui, pour ce temps-là, c'est de calcul mathématique. Hein. Ce n'est plus logistique était utilisée longtemps au Moyen-Âge, bien sûr. Mon monde grec était utilisé surtout comme un travail sur les raisons, c'est-à-dire la théorie des proportions. Hein, pour ça. Là, on change tout à fait le point de vue. Ça se voit sur le titre, donc ça se voit sur la pratique. Bon, alors, je trouve tout le monde s'occupe de ça, les plus grands. Hein, que Kepler, en 1624, éprouve le besoin de faire les milliers de logarithmes, hein, qui y a ce logarithmorum, de tous les nombres, et un geste que Napier n'a absolument pas besoin de faire. C'est, nous sommes dans l'acceptation de la théorie, et une acceptation de théorie en mathématiques, comme à peu près dans tous les domaines, c'est démonstration et légitime. Enfin, il faut que je légitime les choses, c'est tout. C'est pas avant c'était idiot. C'est non, il y a quelque chose qui est bien fait, mais je peux aller plus loin, c'est-à-dire réincorporer ce matériau dans une science qui est une science. C'est pas, je ne dis pas, c'était dans Euclide. Je crée, c'est ça une émergence. Je crée une science qui a les mêmes règles que la démonstration euclidienne. Voilà, c'est tout. C'est pas faire du passé, c'est pas une réaction, c'est une évolution. Je veux lire. Oui, la suivante. J'ai mis deux fois. Je veux juste lire le. Celle-là, j'ai entrepris. Oui, non, j'ai. Voilà, j'ai entrepris. Je trouve que c'est extraordinaire comme type de phrase. Et comme organisation de la pensée de quelqu'un qui sait qu'il a fait quelque chose. Hein. J'ai entrepris de rechercher par quel procédé sûr et rapide on pourrait éloigner ces obstacles. L'obstacle, c'est les difficultés du calcul, hein, c'est tout. Dans ce but, j'en ai examiné soigneusement une grande quantité, les uns après les autres. C'est presque la même, presque une citation de Copernic vis-à-vis des différents systèmes. Géocentrique. Les uns après les autres. Et enfin, j'en ai trouvé plus d'un. Pas un seul. Clair et d'un emploi facile, dont je traiterai probablement ailleurs. Parce que, à la vérité, aucun parmi les autres n'était plus utile que l'un d'eux. Et après, ensuite, et la phrase qui vient juste après, que ça, on n'a pas souvent cela. Archimède pourrait peut-être dire des choses comme ça encore. Mais il m'a plu de communiquer son usage au monde des mathématiciens. Mathématicien n'est pas un nom usuel au XVIIe siècle, contrairement à ce qu'on dit. Je ne crois pas que le mot mathématique figure dans les éléments de Clive, ni dans les commentaires, hein, les éléments de Clive, éléments de géométrie, etc. Mais nouveaux éléments de géométrie, ce que vous voulez, mais mathématique, hein, un point d'histoire, mais il n'est pas quelconque. Le premier livre qui porte le titre de cours mathématique dans le monde, hein, vous le mettez en toutes les langues que vous voulez, est de 1631. Donc là, il dit, là nous sommes en 1614, il dit quelque chose de bien précis. Il y a un monde de mathématiciens, mais c'est moi qui communique. C'est-à-dire que là, vraiment, la vieille théorie de l'imprimerie joue son rôle de diffusion. Je communique au public. Je ne réserve pas cela, bien, c'est vrai pour le monde des mathématiciens, mais je ne réserve pas cela, disons, aux initiés, à ceux qui sont habitués aux mathématiques. Parfait. On peut passer ça. Pardon. Alors, je voulais juste montrer, il ne dit que ce qu'il dit, c'est un magnifique tableau, comme vous voyez, mais avec des tas d'instruments. Donc d'habitude, ceci est utilisé pour montrer combien la géométrie pratique était majoritaire au début du XVIIe siècle. Je voudrais simplement qu'on regarde et qu'on s'attache à quelque chose qui est quand même très particulier, le livre. Dans les autres représentations, aussi bien de géométrie pratique que de calcul numérique, il y en a, hein, etc., vous avez des tables, compas de proportions, enfin tout un tas d'instruments très utiles, mais vous n'avez pas la référence à « il y a un savoir », je suis obligé de dire un savoir théorique, en tout cas un savoir qui s'exprime d'une certaine façon dans le livre. Regardez, si vous pensez à toutes les images que vous avez de mesures de la Terre, de mesures de géodésie, astronomie aussi bien, hein. C'est très très rare que vous ayez la mention à un savoir avec une écriture particulière du livre. Je pense que c'est essentiellement un savoir de la table et ce qui va avec, et ça naît au XVIIe siècle. C'est parfait. Oui. Alors, si on peut s'amuser à regarder de près les inscriptions, c'est une table. Hein. Bon, peu importe, je crois, ce n'est pas mon affaire. Alors, je ne suis pas encore entré. Je vais juste un point encore. Vous pouvez trouver cela un petit peu embarrassant, un petit peu pédant, mais je tiens à le faire. Je veux dire que l'histoire des sciences en elle-même et l'épistémologie ou les études d'épistémologie historique, à mon avis, posent un certain nombre de problèmes parce que les acteurs oublient de dire à quel niveau ils se placent et qu'est-ce qu'ils font, comment ils classent leur type de travaux. Alors, je distingue entre l'épistémologie historique et herméneutique. Il faut focaliser sur le texte, c'est-à-dire quelque chose qui est une bonne tradition, hein, c'est les textes fondamentaux doivent être étudiés pour eux-mêmes, en eux-mêmes, avec les mêmes effets que l'on a lorsque l'on étudie les textes littéraires, les peintures, etc. Mais il y a une épistémologie historique de reconstruction rationnelle avec notre objectif d'aujourd'hui. Il ne faut pas cracher dessus, elle est importante, ça. C'est pas si facile que ça. Alors on peut dire qu'elle est biaisée, mais précisément, elle dit elle-même qu'elle est biaisée. Donc qu'elle est biaisée, qu'elle regarde en fonction de qu'est-ce qui émerge et comment ça va à notre niveau. Mais il y a aussi l'utilisation qui est de plus en plus dépréciée aujourd'hui, et je trouve ça bien dommage, de ce que j'appelle les discours mythiques. Mais les discours mythiques, il y en a de plusieurs sortes. Il y a d'abord le discours mythique des mathématiciens. Les mathématiciens ont leur légende. Gauss a fait ceci, enfin, nous connaissons tout. Il ne faut pas cracher dessus. C'est ça, la tradition. Que ce soit vrai n'est pas le problème. C'est la tradition, c'est ceux sur lesquels quelque chose se crée. Mais il y a aussi les discours des historiens des mathématiques, qui sont peut-être mathématiciens, le problème n'est pas là, mais qui entraînent une autre affaire. Bien entendu, il y a d'autres types de récits. Je crois qu'il faut, ça, c'est utile, et je le distingue de ce que j'appelle l'épistémologie historique des postérités, c'est-à-dire qui est généralement un peu passé sous silence, un peu mal faite. C'est-à-dire que c'est la façon dont un auteur prend un auteur ancien et s'y réfère explicitement. Mais il ne fait pas la même chose. C'est-à-dire, l'inspiration, appelez-le comme vous voulez, le moteur est bien à cet auteur ancien, mais il lui fait prendre un tour différent. Alors, d'habitude, on dit que c'est une filiation. On peut dire comme cela, mais cette filiation, ce qui est gênant dans le mot filiation, c'est que c'est père à fils, c'est-à-dire que la chose, ça se suit. Tandis que les postérités peuvent aller loin en arrière. Il y a une postérité archimédienne au XVIIe siècle qui passe par-dessus toute une tradition médiévale. Alors, je trouvais que c'était intéressant de le faire. Alors maintenant, je passe et je vais essayer de vous montrer maintenant des équations. Alors, je vais essayer, mon but essentiel, je vais essayer de tout ramener là-dessus et d'être étroit, c'est je veux essayer de comprendre comment on est arrivé à la formule qui exprime sinus x en série entière. X moins x3 sur factoriel 3, puis x5 sur factoriel 5, etc. C'est ça mon but. Je crois qu'il est typique de tout un effort, mais comment ça s'est écrit, comment ça s'est précisé et qui a compris. Alors, je prends épistémologie à rebours. Je prends le moment où ça y est. C'est explicite dans un texte qu'on a la formule et qu'on a un moyen exhaustif de l'expliquer. C'est-à-dire que quelqu'un, Jacob, voilà la formule, que quelqu'un, c'est Jacob Bernoulli, explique la formule et donne tout ce qui est nécessaire pour pouvoir l'établir. Hein, c'est complet. Il ne fait pas en disant, en utilisant le calcul différentiel, non, voilà, tout est complet. 1702, enfin, il l'écrit en 1702, c'est publié en 1704, peu importe, Académie des sciences de Paris, c'est Jacob Bernoulli, le frère aîné de Johann, un grand texte. Et alors, juste avant, je crois que c'est... Voilà, pardon. Alors, il y a une invention. Et Bernoulli l'explicite. Et c'est une invention qui ne tient pas à la série. C'est une invention sur la notion même de ce que nous disons, ce que c'est qu'un nombre réel. Et Bernoulli pose, et c'est explicite hein, dans son texte, je crois que je vous le montre juste après, j'écris un nombre réel A sous la forme nx. N va tendre vers l'infini, x va tendre vers 0. Alors, vous pouvez écrire simplement, vous prenez x égale n A sur N, hein, c'est-à-dire je prends un infiniment grand et un infiniment petit. Et donc, je vais écrire les choses de telle façon, c'est ça mon affaire, je vais écrire les choses de telle façon que je puisse passer, bien à dire, à la limite. Non, je vais compenser un infiniment grand par un infiniment petit, le produit me donnant une quantité finie. Quelconque. Ça, c'est peut-être la première définition propre. Enfin propre, qui a une théorie claire sur ce que c'est qu'un nombre réel. Il n'y a aucune géométrie. C'est une définition d'elle-même. Etc. Et alors, comment peut-il... Bon, c'est le texte, mais regardez. Alors, oui, la suite, j'espère que... Alors, juste la façon dont il s'exprime, hein, pour cela, concevons que la corde, il a besoin d'une figure. Que nous avons appelé X est infiniment petite, de manière qu'elle se confonde avec l'arc. Il a l'air de faire allusion à une vieille tradition, mais en fait, il inaugure un genre tout à fait nouveau. Et que le nombre N, qui marque combien de fois cet arc est surpassé par l'arc BD, soit infini. Hein, vous avez tout à fait. Et quand j'ai dit NX, vous le voyez. Hein, moi qui invente très bien. Et alors, juste la suite, est-ce que j'ai bien. Voilà cette affaire. De quoi d'où part-il ? Parce que c'est bien gentil de le dire comme ça, mais il parle, et là c'est une postérité, il parle des formules, et vraiment je l'ai écrit, c'est exactement comme cela que Bernoulli, juste une petite notation différente, mais je crois que c'est pas important, donc il part d'une formule finie. J'ai mis trois points de suspension, ça veut dire simplement que j'ai pas écrit tous les termes, ni le terme général. Mais vous voyez, vous écrivez sinus nx en termes, alors, polynomiaux de sinus x, sinus cube x, sinus 5x, vous mettez devant des facteurs, vous mettez pas n'importe quel facteur, vous mettez les bons facteurs et c'est fini. Hein, c'est-à-dire sinus et x égale ça. Formule de Vienne, 1580, alors sans doute écrit vers 1590, publié 1595, réexpliqué d'une façon un peu complicotée, 1615. Très bien, mais c'est là. Et c'est ça qui fait le calcul de Bernoulli. Alors, vous le comprenez très bien, nx, ben, ça va être un nombre quelconque. Vous allez faire tendre n vers l'infini, x tend vers 0. D'accord ? Du coup, les petits points là, ils vont aller à l'infini. Simplement, il faut que vous regroupiez correctement des termes en nx. Or, vous n'avez pas de termes en nx a priori là-dedans. n sin x. Bon, on va dire que n sin x, x est petit, tend vers 0. N sin x et nx, d'accord, vous l'avez. Mais le second, n 2 moins 1. Sur quelque chose, sinus cube, vous ne pouvez pas vous dire, ah si, oui, mais vous tendez n vers l'infini. Vous avez une algèbre de l'infinitésimal qui se met en place triviale, c'est-à-dire n, n2 moins 1, c'est un polynôme en n de degré 3, il n'y a que le terme de plus haut degré qui compte. Mais en réalité, je remplace bêtement par n3. N3 sur factoriel 3, sinus cube, je remplace x, je remplace par x, n3, x3, ça y est, j'ai gagné, j'ai mon terme du second ordre. Du troisième ordre. Donc, je tiens. Alors, l'écriture, c'est ça. Maintenant, ça paraît tout naturel, hein, à condition d'une définition. Mais ce que je retiens, c'est ce qui fait marcher la machine dans l'esprit de. Enfin, tel que Bernoulli nous l'explique. Hein, c'est que, en fait, il remplace la formule par un polynôme. Et il regarde la nature de comment fonctionne ce polynôme. Bon, et ensuite, c'est facile. Donc, vous voyez, le passage est, ce qu'on peut dire du passage du fini à l'infini, c'est mal dit. C'est vrai, mais il y a un passage qui est par une forme, la forme polynomiale. Il n'y a pas de forme polynomiale chez Euclide, comme vous le savez tous, mais il n'y a pas de forme polynomiale au Moyen-Âge. Alors, je mets de côté le polynomial arabe, qui est d'un autre ordre, qui je crois n'influe pas ici, mais enfin, qui pourrait être lié, mais à partir de Viète, à partir de 1600 à peu près, le polynomial fait partie de quel champ? Je crois, il fait partie du champ numérique. C'est-à-dire du champ que j'ai essayé de déterminer par cette pratique des tables, etc. Alors maintenant, vous pourrez me dire, ben non, il fait partie de ce qui est en train de se constituer l'algèbre. Oui, mais c'est... En disant ça, c'est pas faux. Mais c'est vous qui êtes en train... Enfin, c'est vous. Pardon. C'est celui qui parle ainsi qui est en train de faire une dissociation entre l'algèbre et le numérique. Peut-être parce qu'il pense que l'algèbre vient d'un autre fond, diophante, etc. Alors que ce que nous lisons dans les textes est la compréhension que c'est la même... À mon avis, la même chose. Alors... j'ai expliqué ceci, il me semble que ça va. Alors maintenant, oui, alors il se trouve que je veux montrer ces choses parce que aussitôt une vraie question peut se poser. Cette formule du sinus, il y a un autre endroit où elle apparaît, et au XIVe siècle, et elle apparaît au Kerala. Les relations entre qui peut connaître, là, je laisse tomber, ça c'est pas mon sujet qui est intéressant. Bon, mais la formule du sinus. Voilà en sanskrit. C'est du bas, oui. Et, c'est-à-dire, c'est une versification. Et là, c'est un phénomène assez intéressant. Pour écrire une formule, vous utilisez un. Alors, ce que ça veut dire, ça a un sens indépendamment du sinus. Vous pouvez expliquer, dire littérairement ce que veut dire, qui a un sens pas très intéressant. Mais. Avec les règles de transcription mathématique de cette époque, c'est pas nous qui inventons, vous pouvez trouver ce que vous faites, sinus cube de x sur factoriel 3, voilà, c'est ça que vous trouvez. Et je trouve ça intéressant, vous avez un autre type d'écriture, la versification, c'est-à-dire un moyen mnémotechnique, je suis presque en train de dire, il y a eu plusieurs solutions. La seule qui a triomphé, finalement, c'est l'écriture algorithmique. Très bien. Mais il y avait un autre moyen technique utilisant d'autres procédés qui transpose un sens de versification en un sens précis de comment je retiens. Ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire comment je retiens, et la versification est agréable, une itération. C'est-à-dire comment je retiens que c'est la même chose que je répète, pas tout à fait la même, mais du même type. Voilà, ça je trouve ça intéressant. J'ai mis au-dessus, parce que je trouve que c'est important de signaler, le sanskrit est une traduction. Initialement, ça apparaît dans une autre langue. Hein, et nous avons pratiquement pas de traces. Je crois que ce que je vous montre là est pratiquement la seule chose qui nous reste. Enfin, en tout cas, je ne suis pas sanskritiste, je ne suis pas spécialiste des mathématiques du Kerala, mais je crois que j'ai regardé de près. Donc, c'est une autre affaire. Combien me reste-t-il encore très bien. Alors, je vais revenir sur cette affaire-là. Mais maintenant, je veux aller en... Alors, j'ai donné, je n'ai pas encore... je crois que c'est avec le mnémotechnique, je crois qu'il est entré quelque chose. Je vous montrerai un peu plus loin la façon dont nous avons, dans le cadre de la civilisation européenne, nous avons eu aussi une technique mnémotechnique précisément pour ces formules de trigonométrie. Et je vous en montrerai des vers, tout à fait usuels, dans un cours de mathématiques de 1690. Mais ce que je veux, parce que ça m'intéresse, c'est j'essaie de faire maintenant un petit peu une archéologie. Je vous ai donné ce que j'appelle le point terminal pour la formule de sinus, sinus x égale, en série entière. Je vous ai donné l'écriture, qui est grossement notre écriture, il n'y a pas de... et une façon de l'obtenir. Mais ça vient d'où? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avant? Je ne connais aucun texte publié, je veux dire publié, avant donnant le sinus. Mais par contre, il y a des manuscrits et des lettres échangées. Et je prends la plus ancienne disponible. Je mets de côté un manuscrit de Newton parce que je pense qu'il est faux. Bon, je ne vais pas discuter là-dessus. Mais le texte de Newton, c'est un texte crypté. Alors, je ne vous ai évidemment pas donné le cryptage parce que c'est illisible. Et c'est illisible par toute personne. Si Newton ne nous avait pas donné la signification de cryptage, personne ne peut lire. Hein? C'est une lettre... Vous voyez bien dans quelle affaire. Alors j'ai pris la traduction, là, qu'a fait Wallis de cette affaire de Newton. Wallis prend une lettre de Newton, qu'il a par des moyens divers, de 1676. Le problème est simple, c'est une lettre que Newton écrit 25 mai 1676. C'est intéressé à Leibniz. Soi-disant c'était à Oldenburg, c'est pour Leibniz. Leibniz le reçoit plus tard, peu importe, mais. C'est un texte dans lequel il lui donne le, soi-disant, le fond de son calcul. Alors, comme Leibniz l'écrit très bien, sub finem epistolae de cette année de 1667 dans lequel est écrit, etc. Quod Leibnizius inversum de tangentibus problem, que Leibniz, vous êtes au courant, appelait le problème inverse des tangentes. En fait, c'est le problème. En l'occurrence, c'est arc tangentique, mais dont il déduit sinus. Bon, on voit bien dans quel cadre c'est. Vous voyez, un jeu très, très subtil de la part de Wallis de faire la différence entre le calcul de Leibniz, qu'il ne maîtrise pas, et le calcul de Newton, qu'il ne maîtrise évidemment pas. Regardez les mots en latin una consignore. Très bien, pardon. Una consignore altera generaliore. C'est pas trivial pour dire que l'une est plus élégante, consignore, je ne sais pas, plus convenable. Hein, Newton. Là, una consignore altera. Voilà, c'est ça. Hein. Et l'autre, il faut l'écrire pour Wallis, hein, qui est quand même un peu sous la coupe de Newton. Plus général. Leibniz, et nous sommes, quand ceci est écrit, nous sommes en 1685. Hein, voilà pour fixer des dates, nous sommes dans la querelle, elle n'est pas dite. Mais, alors, ce qui m'intéresse, c'est maintenant, il traduit l'anagramme, enfin, c'est pas le bon anagramme, le crypte, le message crypté, mais j'ai mis la traduction, c'est la mienne, en tout cas, je sais ce que je veux dire à partir d'elle. Voilà. texte caché. Mais une méthode consiste en l'extraction d'une quantité fluente à partir de l'équation qui implique en même temps la fonction. Ce que nous traduisons, et je crois qu'il est très juste, comment je calcule une équation différentielle à partir de la donnée de la fonction, c'est-à-dire j'ai une quantité, comment je peux calculer sa dérivée, enfin, dire sa dérivée, comment je peux calculer quelque chose à partir d'une donnée. Alors ça c'est un, mais une autre, voilà, nous sommes pour notre sinus, nous y sommes là, hein. Postulant une série pour toute quantité inconnue, a priori pour sinus x, je pose a priori une forme ax plus bx2, etc. Je la pose a priori. Hein, le postulant est tout à fait, dont on pourra convenablement déduire le etc., les trois petits points. C'est-à-dire qu'on pourra, alors dit en autre terme, on pourra déduire, non pas la convergence, mais l'itération. Que c'est le même type de coefficient avec le même type de série en fonction de puissance, que je répète très bien, en collationnant tous les termes homogènes de la dite équation, afin de rendre explicite le terme de la série postulée. C'est-à-dire, c'est par, j'ai fait mon calcul, j'ai mon sinus, il a une propriété ce sinus, une quantité quelconque, mais mon sinus a une certaine propriété, j'écris cette propriété en postulant que mon sinus c'est une série entière, et je résous. C'est-à-dire, je résous les termes A, B, C. Et Newton, alors, petite histoire, elle est quand même extraordinaire, cette affaire. Newton, qu'est-ce qu'il espère? Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que de passer à la postérité, que quelqu'un traduise cette affaire-là, mais pas que Leibniz comprenne. Alors, ce qui est, je crois, vous avez toute la méthode des coefficients indéterminés qui est là, qui est claire. Il ne donnera... quelqu'un qui a vu fonctionner une fois la méthode des coefficients indéterminés, ben c'est ça. Hein, voilà. Newton ne donnera jamais l'exemple que j'ai pris du sinus. Comment l'a-t-il ? Il a son affaire. Comment l'a-t-il résolu ? Je crois, là, vraiment, je vois pas d'autre solution. Le sinus, c'est une fonction comme d'autres qui satisfait l'équation différentielle de second ordre y seconde plus y égale 0. C'est-à-dire, j'applique y, je l'écris, y seconde, je l'écris. Ah, il faut que le sinus, quand même, tout à l'heure, qu'en x égale 0, il vaille 0. C'est une fonction impaire. Donc, j'élimine les termes. Enfin, bref, ça y est, j'ai mon sinus, j'ai tout. Et j'ai tout. Et pour Newton, cache-t-il, ne cache-t-il pas ? Ça, je suis incapable de dire. Mais j'ai pas besoin d'expliciter, c'est comme cela. Alors, drôle, ça c'est la suite encore, je crois que j'ai encore une autre. Non ? Bon, là, ça c'est sympa. De toute façon, je veux l'expliquer. Ça tombe sur Leibniz, qui n'y comprend rien, mais qui a deviné qu'on lui fait un mauvais coup. C'est évident, si on veut vous expliquer quelque chose, Newton répond à une demande de Leibniz. Hein. Si on veut vous expliquer quelque chose, on ne le crypte pas. On vous donne des exemples. Quand en 76, à la fin 76, ça arrive chez Leibniz, Leibniz n'aurait même pas besoin de la traduction, c'est-à-dire de l'explication. Car il est, je vais l'expliquer rapidement, il est déjà beaucoup plus loin. En 76, ceci serait arrivé en 72, ça change tout. Mais en 76, c'est trop tard. Pourquoi ? Alors, premier point, sur Newton, qu'espère-t-il faire ? Que veut-il faire ? Pourquoi ne donne-t-il pas son affaire ? Alors, j'ai une explication qui tient encore à l'écriture, mais je la réserve un peu après. Hein. Je crois qu'on peut l'expliquer, et sans avoir besoin de dire que c'est un mauvais caractère. Voilà, on n'a pas nécessairement, on peut aussi le dire, mais on n'a pas nécessairement besoin de le dire comme cela. Mais le deuxième point qui me paraît le plus important, c'est qu'en 1675, alors nous avons un énorme texte de Newton disponible, c'est méthode de quadrature du cercle de l'ellipse, etc., dans lequel, alors je ne dois pas l'avoir, j'ai dû oublier de comment ça s'appelle, je crains que j'ai oublié de, non, oh non, je ne crois pas qu'on l'aura comme ça, ah peut-être, en tout cas en 1675, Leibniz a obtenu une méthode pour obtenir, et l'exemple est le sinus, qui est une méthode basée sur la chose suivante. L'expression du sinus par les propriétés géométriques du sinus. En gros, comment ça se voit sur un cercle, hein. Bon, par ses propriétés géométriques du sinus, si j'applique le calcul différentiel, il l'a, le calcul différentiel, est identique à la série du sinus sur laquelle j'applique le même calcul différentiel. C'est-à-dire que par rapport à Newton qui a l'air de donner, je pose a priori une série entière, c'est comme ça. Leibniz fait une autre affaire, c'est si je regarde le sinus, si je regarde une autre série entière que je me donne, c'est la même chose par des propriétés du calcul différentiel. En fait, ce que réussit Newton, alors pour le dire en termes d'aujourd'hui, il réussit à approcher les propriétés du sinus par une intégrale de Riemann. C'est-à-dire qu'il approche par petits bouts le sinus, il a une intégrale de Riemann. Non, c'est pas celui-là, ça c'est. Non, ça c'est pour l'ellipse.
La seule figure que je peux
faire. Oui, c'est un texte pas si connu que ça. Et il approche le sinus par des intégrales de Riemann, disons par des intégrales de fonctions en escalier, pour le dire comme ça. Et il montre que ces approximations correspondent au même type d'approximation que je fais lorsque je pars de la série entière, que je m'arrête à chaque rang n. Alors, c'est pas trivial à faire, c'est abominablement long. C'est Leibniz, c'est pas un homme qui écrit court, c'est pas un homme qui écrit simple, et c'est un homme qui ne revient jamais sur ses erreurs. Enfin, qui revient sur ses erreurs, mais en ne disant pas là c'est faux, et puis je recommence, c'est dire mais en fait c'était pas si faux que ça, bon, ce n'est pas facile à lire, disons. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas les idées, elles sont là, c'est un peu délicat. Question qui se pose, mais je crois qu'il ne fait pas partie de notre véritable problème, c'est pourquoi il n'a pas publié un texte parfait, parfait, à la limite, il le laisse tomber, il le laisse dans ses affaires à Paris, ce qui fait que le manuscrit est à Paris. C'est bizarre, etc. Mais alors, juste ce que je peux rajouter par rapport à cette affaire l'affaire de Leibniz, la méthode qu'il obtient, Leibniz, c'est très vraisemblablement la même méthode que celle de l'école du Kerala. Je ne suis pas en train de dire que Leibniz a copié le Kerala, c'est pas ça le problème. C'est cette méthode d'approximation par une intégrale définie, c'est-à-dire par des sommes de Riemann, c'est celle du cas. C'est-à-dire, je fais une approximation sur ma fonction sinus qui correspond, quand je la développe, à l'écriture algorithmique de la série entière. Donc vous êtes obligé, dans cette affaire-là, de présupposer malgré tout que la série entière est déjà là. Alors que vous avez vu, et c'est ça la différence, vous avez vu que pour Jacob Bernoulli, la série entière, vous l'obtenez. Elle provient de votre algorithme. Voilà, je crois que là, il y a une grande différence. Donc le fait que Leibniz et l'école du Kerala soient pareils, c'est une autre motivation. Petit détail par rapport à ce que j'ai raconté sur les tables numériques, ce qui caractérise l'école de Madhava, l'école du Kerala, donc, c'est l'utilisation extrêmement précise de tables numériques. Toutes écrites dans le langage, pas en sanskrit, mais peu importe, traduites en sanskrit, c'est-à-dire des tables qui apparaissent de façon mnémotechnique. Hein. Mais je crois qu'il y a là un lien qui est tout à fait clair. Alors maintenant, que se passe-t-il? Enfin, comment peut-on comprendre cette facile l'écriture à proprement parler de la série? Donc je reviens encore en arrière. Par rapport aussi bien Leibniz que Newton ont l'air de la passer. Alors un premier point pour Newton. Newton estime que le modèle, c'est ça mon explication pour Newton, le modèle qui a servi à sa pensée, le modèle, le paradigme comme on dirait, c'est la formule du binôme de Newton, qui apparemment n'a rien à voir avec le problème du sinus. Alors que pour nous, que le binôme de Newton, quand on y réfléchit bien, et c'est Euler qui nous a fait réfléchir là-dessus, ça donne l'écriture en complexe, enfin l'exponentielle complexe, etc. Hein, ce sont des jeux des mathématiques. Je ne veux pas en parler, simplement pour Newton, l'écriture, là nous avons un problème d'écriture. Newton est le premier, vraiment le premier, à écrire 1 plus x à la puissance alpha, non pas sous la forme d'une série entière, et bien sûr il donne ce qui pour nous est une série entière, mais il l'écrit de façon purement algorithmique, c'est-à-dire 1 plus x à la puissance alpha, alors il commence par 1, bon, ça va, bon, il met une quantité devant, je fais comme si c'était 1, plus x, ben, le x, il ne l'écrit pas comme ça, il met une lettre, et cette lettre va se retrouver dans le second terme. Premier terme 1, plus, mettons, P, hein, plus la lettre qui vient après, qui est Q, rappelle le P, c'est-à-dire que dans mon écriture, c'est X2 hein, qui est en cause, mais je rappelle le P, et puis j'écris d'une façon algorithmique le coefficient 1 plus alpha X plus alpha moins 1 sur factoriel 2. Hein. Ce alpha moins 1 sur factoriel 2, c'est ce qui a l'air de préoccuper Newton. Enfin, ce qu'on dit qu'il a l'air de le préoccuper, en fait, je crois simplement que ce qu'il invente, c'est au lieu d'écrire des choses en puissance successive, il fait que je prends le terme d'avant et je rajoute. Je multiplie. Et ça, c'est génial sur le plan purement algorithmique. Il ne s'intéresse pas un instant à la convergence, mais ce n'est pas le problème. Hein. C'est, ce qui l'intéresse, c'est l'écriture. Cette écriture de Newton est refusé par Wallis, qui le reçoit dans le texte que je vous ai donné tout à l'heure, dans le texte de Wallis. Ce que fait Wallis, il reprend le texte de Newton, il dit ça c'est pas clair. Hein? Et il écrit en série entière. Voilà. Nous avons en 1685 l'écriture. Alors on peut dire que ça casse quelque chose de Newton, hein? Je crois que c'est bien clair, ça casse quelque chose de Newton. Mais en même temps, c'est notre monde, interprété. Alors, d'où viennent les choses ? Alors maintenant, on commence à comprendre, j'espère, en arrière, le moment où a été compris que les séries entières, alors cette fois, je ne suis plus à mon sinus, hein, que la série entière, c'était le bon objet, c'est 1668. C'est ce moment qui détermine Newton à écrire son affaire du binôme. Hein. Et c'est Mercator qui en fait est responsable. Mercator par un procédé, je n'ai pas le temps de montrer, non, je vais le préparer, mais un procédé assez génial, remplace le logarithme par une série entière, et il le fait par la propriété fonctionnelle du logarithme. Simplement, il le fait sur 1 plus x. Donc le 1 plus x à la puissance alpha par 1 plus x à la puissance bêta, ça donne 1 plus x à la puissance alpha plus bêta. Voilà la propriété qu'il fait, puis vous mettez le logarithme comme il faut. Tout ça. Bon, il remplace cette propriété et il écrit avec des approximations par somme de Riemann et il développe, c'est abominablement compliqué, quand on sait le faire, ça va, hein, mais il développe en série entière les termes en 1 sur 1 plus x. Alors, de façon précise, il regarde l'intégrale de Riemann, mettons en somme de 0, 1, de dx sur 1 plus x, et je vais l'écrire comme somme de 1, de sigma, de 1 sur 1 plus k sur n, alors il y a un facteur devant pour homogénéiser, 1 k sur n, je fais ce sigma, je développe 1 sur 1 plus k sur n en série entière, je regroupe autrement les séries, et je trouve ma série entière. Et ça, l'allusion qui est faite, la référence, je veux dire la postérité, alors c'est tout à fait clair, dans le texte de Mercator, c'est tout à fait clair, elle est à Wieth, qui est, alors maintenant je crois que je peux dire, le premier à avoir remplacé la vieille série, parce que nous disons 1 sur 1 moins x égale 1 plus x plus x2, etc. Hein, donc, avoir cette chose qui s'exprimait géométriquement, cette chose qui s'exprimait sans mettre un x, mais en mettant une valeur précise numérique, Archimède, un tiers, par exemple dans la quadrature de la parabole, qui s'exprimait par des nombres et qui s'exprimait sans que la série entière apparaisse comme un processus algorithmique. Et Wieth est celui qui, juste pour cette petite série-là, de rien du tout connue, la remplace par un x quelconque, c'est-à-dire un x qui permet d'écrire la variable, et l'écrit en utilisant ce que Newton a dû voir, on peut le penser comme ça, en utilisant le système itératif. C'est-à-dire, j'écris un premier terme, le second dépend du premier, je multiplie simplement. Le mot corrigé n'est pas exact, mais enfin, je multiplie le premier par quelque chose. Et je fais toujours la même chose, c'est toujours le terme d'avant. Vous comprenez aussi le gros avantage de faire cela, que vous utilisez deux techniques. Vous utilisez le terme d'avant qui vous donne les puissances, et vous utilisez le triangle de Pascal. C'est-à-dire, le coefficient qui est là, il était bon dessus du sud, celui-là côté. C'est les deux en même temps. Alors, le fait que les deux soient en même temps complique l'interprétation qu'on donne. Les historiens qui s'intéressent au seul triangle de Pascal vont vous dire, ben voilà, c'est là. Et puis Newton, la série entière n'a pas d'importance. Puis vous avez l'autre regard, qui est tout aussi justifié, l'autre regard, la série entière, l'écriture, et vous avez le passage par Wallis, qui est, on peut dire l'algèbre, oui, voilà, là on a l'algèbre, et l'invention de Newton se met dans un autre genre, qui va être celui qui vient jusqu'à nous. Alors je m'arrête là. Pour cette affaire, ce que j'ai essayé j'ai malgré tout fait de l'histoire, je crois que c'était le but, mais il me semble que j'ai fait de l'histoire focalisée, c'est-à-dire sur une question, une question seulement, pas tout à fait uniquement le sinus, mais une question, c'est une écriture, ces évolutions de cette écriture et le champ dans lequel elle se situe, c'est-à-dire le champ numérique, c'est-à-dire le champ des tables, je suis encore plus précis que cela, etc. Il me semble que c'est la même chose qui s'est passée au Kerala. Un excellent contre-exemple, parce qu'il existe des contre-exemples, etc. C'est ce qui s'est passé au Japon. C'est tout à fait différent. Une autre, totalement, c'est pas une question de table, c'est une autre façon de faire. Et ils ont la même forme, heureusement, la même formule, mais écrite totalement différent. Tu fais dire apparemment. Et donc, mon affaire était de faire cette histoire. Et cette histoire d'écriture et voir que l'évolution va vers un certain sens, mais qu'évidemment nous-mêmes aujourd'hui nous pouvons repenser même pour la présentation même tout simplement des séries entières, avoir une présentation purement algorithmique de cette affaire-là, formelle. Après tout, c'est ça les séries formelles, c'est très, très bien et ça marche très bien. Voilà un petit peu ce que je voulais faire sur cette affaire d'écriture, en étant, sûr que là, vraiment, la technique d'écriture d'une table, là, on peut parler de technique, liée à une impression, a joué un rôle dans cette affaire. Et bien entendu, ensuite, tous les mathématiciens ont essayé de dire, ça nous vient plutôt de la géométrie, ça nous vient plutôt de l'analytique, mais ça, ce sont des interprétations d'après. Si on essaie de regarder ce qui se passe, j'ai envie de dire, eh bien, c'est le développement d'une science émergente qui se développe elle-même, pour elle-même. Les applications jouent-elles un rôle ? Bien sûr ! Bien sûr ! Mais les applications, c'est la science elle-même. Je veux dire, l'étape de charte nautique, c'est la science qui est en cause. Faire la différence, parce que nous l'avons aujourd'hui, mais là, elle n'est pas. Voilà en quoi. Alors, j'espère que je répondais à certaines des interrogations dans ma langue, enfin dans ma langue, ma façon d'exprimer les choses. Et j'espère que, en tout cas, il n'y a pas trop de formules. Bien sûr, même si tout dépend d'une formule, c'était ça le but de l'époque. Je vous remercie de votre patience.